France Inter.
Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. D'anciens otages face à leur geôlier avec la montée en puissance du groupe État islamique en toile de fond. Le procès de Mehdi Nemmouche s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris, celui qui purge déjà une peine de prison à perpétuité. Pour l'attentat de Bruxelles, est accusé avec 4 autres djihadistes d'avoir détenu en Syrie des journalistes et des travailleurs humanitaires. « Je n'ai jamais été leur geôlier », dit-il, « on ira sur place ». On prendra aussi la direction de Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Céline.
Le chef de la diplomatie russe va rencontrer demain de hauts responsables américains en Arabie Saoudite pour évoquer le sort de l'Ukraine.
Oui, probablement, mais dans un dialogue toujours conçu exclusivement avec les Américains par Moscou, qui ne veut pas entendre parler des Européens.
Merci Sylvain, on vous retrouve tout à l'heure face aux États-Unis et à la Russie qui accélère. Les Européens tentent donc de se faire entendre malgré tout. Une réunion entre dirigeants organisée en toute hâte aura lieu cet après-midi à l'Élysée. On va y revenir. Au programme aussi de ce 13-14, l'enquête en Corse qui se poursuit après la mort d'une étudiante de 19 ans. Tuée par balle au volant de la voiture de son compagnon, c'est lui qui intéresse désormais les enquêteurs. À Mayotte, les élus locaux répondent aux soupçons de détournement de l'aide aux sinistrés. Et puis on évoquera le grand retour de la cassette. Un magasin 100% cassette audio a ouvert à Paris. On verra que ça marche grâce aux nostalgiques, bien sûr, mais aussi grâce aux jeunes curieux. Notre invitée à 13h30 est la patineuse Gabriela Papadakis, championne du monde, championne olympique, et bien décidée à casser les codes. Lors d'un gala la semaine dernière, elle a patiné en couple avec une autre femme. C'était une première. J'attends vos questions, vos réactions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton nous emmène aujourd'hui dans les coulisses de l'art contemporain au salon de Montrouge au sud de Paris qui fait émerger chaque année les nouveaux talents.
Les salons de Montrouge, c'est une photographie instantanée de nouvelles tendances de la jeune création émergente.
Ambiance factory de Andy Warhol.
Voilà, la factory à la française, premier épisode dans 3 quarts d'heure. Et puis pour aller jusqu'à 14h, on parlera des origines du carnaval avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Et on écoutera Michel des Beatles avec le comédien François Berléand au micro de Frédéric Pommier. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
C'est un procès qui arrive après beaucoup d'autres, après le procès Charlie Hebdo, après le procès du 13 novembre. Et c'est pourtant le procès qui va raconter comment tout cela a commencé. La cour d'assises spéciale de Paris juge depuis ce matin 5 djihadistes qui sont accusés d'avoir détenu en Syrie des journalistes et des travailleurs humanitaires, notamment les 4 reporters français, Nicolas Hénin, Pierre Torres, Didier François et Édouard Elias, qui avaient passé 10 mois aux mains du groupe État islamique. C'était entre 2013 et 2014. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous avez assisté à l'ouverture de l'audience. Ce matin, le principal accusé, Mehdi Nemmouche, déjà condamné à perpétuité pour l'attentat au musée juif de Bruxelles, a pris la parole pour nier toute implication dans ses détentions.
Je veux faire une déclaration préalable, réclame Mehdi Nemmouche, quelques minutes à peine après le début de l'audience. Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux, ni de quelque otage que ce soit. Installé à l'extrémité du box, la plus proche de la cour, le principal accusé de ce procès s'exprime à toute vitesse. Lui qui a gardé le silence pendant toute l'instruction. Père inconnu, j'étais électricien. Lui qui est parti en Syrie dès janvier 2013 insiste. Je n'ai jamais eu la fonction de geôlier, j'ai toujours été un soldat sur la ligne de front face aux troupes de Bachar al-Assad. Après ses premiers mots, Mehdi Nemmouche, maillot de sport noir et visage juvénile, se rassied dans le box des accusés tout en continuant à observer sans relâche ce qui se déroule dans le prétoire.
Mais quelle que soit l'attitude de Mehdi Nemmouche au cours des prochains jours, c'est un procès majeur, hein, c'est ce que disait tout à l'heure à votre micro Charlotte, l'un des ex-otages français, l'ancien journaliste Didier François.
Moi j'ai aucun doute, après ces avocats, Mehdi Nemmouche veulent dire ce qu'ils veulent, c'est normal. On est en démocratie, en liberté, ils ont le droit à la défense, à la différence de leur état totalitaire où on prend des otages qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui n'ont aucun droit. Le problème de Mehdi Nemmouche, c'est qu'il est très représentatif des 2000 jeunes français qui sont partis combattre pour un projet totalitaire qui était celui de l'État islamique en Syrie. Je pense que pour nos concitoyens, vraiment ce qui est important, c'est de comprendre que les gens qui étaient nos gardiens sont les membres d'une organisation qui a organisé l'ensemble des attentats en Europe à partir de 2015.
Didier François qui est donc partie civile dans ce procès, tout comme Charlotte, de nombreux autres journalistes et humanitaires.
Oui, car à cette époque, ce sont 25 occidentaux, 20 hommes, 5 femmes, journalistes ou humanitaires qui ont été enlevés et séquestrés par l'État islamique. Des personnes qui ont directement ressenti dans leur chair les faits reprochés aux accusés. Leur qualité de victime ne peut être contestée, a tenu à préciser le parquet national antiterroriste. Et de fait, on a vu s'installer sur les bancs des partis civils ce matin la famille de David Haynes, un des otages britanniques assassinés. On a vu arriver des ex-otages survivants, italiens ou espagnols. Car ce que la cour d'assises spécialement composée s'apprête à examiner pendant ces 5 semaines, domaine. C'est en quelque sorte la première étape de la mise en place par l'État islamique de sa stratégie à l'encontre d'États occidentaux considérés comme ennemis. Avant l'étape suivante, la vague d'attentats qui ont ensanglanté la France, mais aussi la Belgique, puisque l'attaque du musée juif de Bruxelles en 2013 est la première perpétrée par un djihadiste de retour de Syrie, Benny Desmouches. Il a été condamné à la perpétuité en Belgique pour cet attentat, une attaque sanglante dont le parquet antiterroriste vient de demander la diffusion des vidéos au cours de ce procès.
Merci Charlotte Piret, la Cour d'assises spéciale de Paris, avec les moyens techniques de Mickaël Simon. Où va se décider l'avenir de l'Ukraine? Où se tiendront les discussions sur un éventuel cessez-le-feu, sur les nouvelles frontières ou sur de futures garanties de la paix? Eh bien, peut-être que tout cela va se négocier loin de l'Europe, en Arabie Saoudite, qui va accueillir demain une réunion entre des responsables américains et le chef de la diplomatie russe. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Kremlin, prélude à un futur sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On va prendre la direction de Moscou dans un instant. Mais avant cela, parlons des Européens. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Les Européens qui ne sont pas invités, mais qui ne veulent pas qu'on les oublie. Un mini-sommet a donc été organisé en urgence. Il va se tenir cet après-midi à l'Élysée et une partie des dirigeants européens vont s'y rendre.
Effectivement, un sommet à l'invitation de la France qui rassemble donc les chefs de gouvernement de l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark dans une tentative d'élaborer une réponse face à cette accélération qui laisse l'Europe reléguée en position d'exécutant dans le cadre d'un plan de paix américano-russe où elle n'a pas son mot à dire. Une Europe divisée, comme le prouve la réaction du gouvernement hongrois qui qualifie la réunion d'aujourd'hui de réunion pro-guerre de dirigeants frustrés. La Hongrie, soutien ouvert de Donald Trump, n'a pas été invitée à ce sommet qui, tout informel qu'il soit, acte l'implosion de l'Europe face aux injonctions russes et américaines.
Les participants devraient notamment discuter, Claude, d'un possible envoi de troupes. On voit que les positions évoluent sur le sujet. Plusieurs pays s'y disent désormais favorables.
Oui, parce que les Américains ont effectivement dit que ce serait à l'Europe d'assumer la sécurité de l'Ukraine. Et puisqu'une adhésion à l'OTAN est exclue, conformément à la volonté de Vladimir Poutine, c'est donc aux Européens qu'incombe la responsabilité de garantir la sécurité d'un cessez-le-feu ou d'un gel des combats. Le Britannique Keir Starmer, le premier, s'est dit prêt à, si nécessaire, envoyer des troupes britanniques en Ukraine, rejoint par la Suède, pas opposé à cette idée. La France dit que des discussions sont en cours pour un éventuel envoi de troupes de pays européens. La Pologne, concernée au premier plan, est, on le sait, réticente. Rien de prévu à ce stade, dit Varsovie, comme Berlin, qui juge l'idée prématurée.
Et pendant que les Européens, merci Claude Guibal, tentent de trouver une position commune, eh bien les choses s'accélèrent entre la Russie et les États-Unis. Sylvain Tronchet, on vous retrouve en direct de Moscou. On a donc appris que le Kremlin allait dépêcher deux hauts responsables demain en Arabie Saoudite pour y rencontrer des Américains. Et quand on regarde le casting, on voit bien que ce n'est pas un rendez-vous de simple politesse.
Non, effectivement, puisque partiront donc à Riyad le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le conseiller présidentiel, Yuri Ushakov, deux hommes de confiance, de proches de Vladimir Poutine, qui devraient donc rencontrer demain notamment le secrétaire d'État américain Marco Rubio. En soi, c'est déjà un événement. Une rencontre de ce niveau entre Russes et Américains n'a pas eu lieu depuis le début de la guerre, à l'exception d'une brève entrevue Lavrov-Blinken en marge du G20 en 2023, qui n'avait débouché sur rien. C'est aussi le signe que le Kremlin prend les choses au sérieux. Lorsqu'il y avait eu quelques discussions, début de discussion à Istanbul au début de la guerre, Moscou avait alors envoyé l'ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, qui est un second couteau de la politique russe. Là, la mission de la délégation russe sera notamment de baliser le terrain pour une rencontre au sommet Trump-Poutine, dont on dit qu'elle pourrait arriver très vite, dès la fin du mois, à Riyad, toujours. On voit donc que Moscou accélère, clairement pousse son avantage, en quelque sorte, dans ce processus, en excluant toujours les Européens. Je ne vois pas ce qu'il viendrait faire autour de la table de négociation, a dit tout à l'heure Sergueï Lavrov.
Merci Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Vous êtes le correspondant de France Inter. De son côté, Volodymyr Zelensky dit qu'il n'a pas été informé de ses pourparlers à Riyad et que l'Ukraine ne reconnaîtra aucun accord sans elle. Et le président ukrainien, lui aussi, a d'ailleurs prévu de se rendre en Arabie Saoudite. Ce sera mercredi, une visite prévue de longue date, précise son porte-parole. Tandis que la guerre, elle se poursuit. L'Ukraine a attaqué avec des drones un oléoduc dans le sud de la Russie, alors que Moscou dit avoir repris un village de la région de Koursk, qui était aux mains de l'armée ukrainienne. Des nouvelles du pape François, elles ne sont pas bonnes. Le Vatican annonce à l'instant que le pape, initialement hospitalisé pour une bronchite, est dans un état clinique complexe. Il souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires et son traitement a été modifié, dit le Vatican. Le pape est âgé de 88 ans. Des dizaines de manifestants ont défilé à Jérusalem aujourd'hui en direction de la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Netanyahou. Il brandissait des portraits d'otages pour appeler à ne pas les oublier. 500 jours après leur enlèvement par le Hamas, c'est le début de la guerre à Gaza. Et puis au Liban, Israël confirme avoir tué un commandant du Hamas ayant, je cite, planifié des attaques terroristes malgré la trêve en vigueur. Les autorités libanaises continuent d'ailleurs de réclamer le retrait des troupes israéliennes du sud du pays. Beyrouth en appelle aux garants de la trêve pour tenter de convaincre Israël de respecter les termes de l'accord. Faut-il avoir peur de DeepSeek ? C'est la question que beaucoup de pays se posent. L'appli chinoise d'intelligence artificielle fait trembler la Silicon Valley, mais suscite aussi beaucoup d'inquiétudes sur la protection des données personnelles de ses utilisateurs. Bonjour Nicolas Piquet.
Bonjour Céline,
cette
bonjour
nuit,
à tous.
On a appris que la Corée du Sud avait carrément décidé de l'interdire, provoquant la colère de la Chine, pour qui il ne faut pas politiser les questions technologiques. D'autres pays en parallèle tentent de freiner son utilisation. Qu'est-ce qu'on reproche finalement à cet outil ?
La crainte, c'est que les autorités chinoises récupèrent les données personnelles des utilisateurs. C'est écrit noir sur blanc dans la politique de confidentialité de DeepSeek. Votre date de naissance, votre mail, numéro de téléphone, mais aussi votre adresse IP et la moindre information que vous saisissez sur l'application, tout ça est stocké par DeepSeek pour une durée indéterminée. Jusque-là, rien d'anormal, c'est partout pareil, notamment sur ChatGPT, le concurrent américain. La différence, c'est que pour DeepSeek, les données sont hébergées en Chine. Et en Chine, c'est la loi. Si le gouvernement demande d'accéder aux données, les entreprises sont obligées d'accepter, d'où l'inquiétude de nombreux pays, la Corée du Sud, mais aussi l'Australie, les États-Unis, l'Irlande, l'Italie, la Belgique, la France aussi. Tous ces pays prennent leurs précautions et veulent des garanties. Les autorités chinoises promettent qu'elles ne demanderont jamais à des entreprises d'obtenir illégalement des données. Encore faut-il les croire sur parole.
Merci pour toutes ces précisions, Nicolas Piquet, service culture écran de France Inter.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Faire front contre la violence, montrer que les citoyens ne sont pas intimidés par la criminalité organisée. Voilà les mots d'ordre d'une manifestation qui se tiendra samedi prochain à Ajaccio à l'appel de deux collectifs anti-mafias. Réaction à la mort samedi soir d'une étudiante de 19 ans tuée par balle alors qu'elle conduisait une voiture à Ponte Leccia, un véhicule habituellement utilisé par son compagnon selon le procureur de la République, ce qui semble accréditer la piste d'une erreur de cible. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et l'enquête se concentre donc sur le propriétaire de la voiture.
Ah oui, si l'enquête a été confiée hier soir à la GIRS de Marseille, la juridiction interrégionale spécialisée contre le crime organisé, c'est que le mode opératoire ne laisse que peu de doutes. Le ou les auteurs avaient bien préparé leur guet-apens et surtout leur fuite, alors que les gendarmes, une brigade territoriale, se trouvent sur la commune de Ponte-l'Échat. Eh bien, ces gendarmes se sont déployés rapidement samedi soir. Pour l'heure, on sait que la victime, Chloé, était une étudiante sans histoire à l'université à Corté, bac général obtenu l'année dernière, et c'est bien le fait qu'elle était sortie de sa villa au volant de la voiture de son petit ami en pleine nuit qui a fait penser aux enquêteurs qu'il pouvait s'agir d'une erreur de la part du ou des tueurs et que ce serait bien ce petit ami qui était la cible. En attendant les résultats des expertises, de la balistique, la section de recherche de la gendarmerie et la direction de la police nationale cherchent à savoir qui pouvait en vouloir à ce jeune homme, de quelle famille il était proche. Politique, mafia, extorsion, aucune piste n'est écartée, déclaré ce week-end effectivement le procureur de Bastia. L'enquête cherche également à vérifier si la voiture incendiée peu de temps après cet assassinat à Tralong à 20 km de la scène de crime pouvait avoir un lien. Une voiture qui avait été volée sur le continent, selon nos confrères de Corse Matin.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. À Paris, 6 personnes appartenant à l'extrême droite radicale ont été interpellées hier après une violente agression devant l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie. C'est situé dans le 10e arrondissement. Et David Di Giacomo, c'est un groupe d'individus qui a tenté de faire irruption dans la salle pendant une soirée antifasciste.
Une trentaine d'hommes cagoulés, armés notamment de tessons de bouteille, s'attaquent hier en fin d'après-midi à un collectif de jeunes Kurdes lors de la projection d'un film de Costa Gavras dans un local associatif du 10e arrondissement de la capitale. Une soirée cinéma antifasciste, selon les organisateurs. Ils affirment ce matin avoir été agressés par un groupe de néo-nazis français. Un jeune adhérent de la CGT, âgé de 30 ans, a été grièvement blessé. Les policiers ont pu interpeller 6 suspects. De sources proches de l'enquête, on nous explique qu'ils appartiennent à la mouvance de l'extrême droite radicale. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Les investigations sont confiées à la police judiciaire. Un rassemblement pour dénoncer cette agression est organisé ce soir à 18h devant la gare de l'Est à Paris. La secrétaire de la CGT, Sophie Binet, dénonce sur le réseau X une attaque d'une violence inouïe.
Les précisions de David Di Giacomo. Les semaines ont passé, mais les besoins restent tout aussi importants à Mayotte. Les sinistrés manquent toujours de nourriture, mais surtout d'eau potable. Et deux mois après le passage du cyclone Chido, certains s'interrogent au sein de la population, comme des associations, sur des dysfonctionnements dans l'aide apportée. Y a-t-il des détournements? Les élus locaux, en tout cas, s'en défendent. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
L'acheminement de l'aide est toujours une question sensible.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'eau potable au robinet à Mayotte. Donc la question de l'accès aux bouteilles d'eau reste cruciale. Et 2 mois après la tempête, le nombre de bouteilles d'eau disponibles sur l'île est toujours très limité.
Au niveau des quantités d'eau, clairement, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et seuls les premiers arrivés sont les premiers servis. Chaque personne peut avoir un pack d'eau de 6 bouteilles. Généralement, c'est les 200 premiers clients maximum sont servis.
About, un jeune Mahorais qui participe à des distributions de bouteilles d'eau à la population, la préfecture de Mayotte s'interroge aujourd'hui sur de probables détournements de cette eau venue de métropole. Ce genre de pratique est difficile à prouver, mais elle a toujours existé sur l'île, confirme le jeune Mahorais.
Malheureusement, ça a toujours été le cas au niveau de Mayotte. C'est que les gens qui sont au pouvoir s'accaparent toutes les ressources qui viennent de l'extérieur. Et ça a toujours été le cas avant la crise. Encore plus pendant la crise, c'est la population qui en pâtit.
Des soupçons de détournement qui ne sont là que pour cacher une autre réalité. Les quantités d'eau potable envoyées depuis la métropole sont très insuffisantes, explique l'élu, le maire de Mayotte. J'ai perdu son nom. Je vais le retrouver juste après.
Qu'on vienne derrière dire qu'on vole l'eau, non, quand même, c'est manque de respect total vis-à-vis de ces agents. Donc moi, à Mamoudzou, les agents ont demandé, en tout cas, ils ont dit qu'ils ne veulent plus distribuer de l'eau. Moi, je ne vais pas les forcer à aller distribuer des choses qui viennent de la préfecture pour après demain se faire traiter de voleurs. Ils sont catégoriques, ils ne veulent pas, et moi je les soutiens.
Des soupçons de détournement qui ne sont là que pour cacher cette réalité. Les quantités d'eau envoyées depuis la métropole sont très insuffisantes pour parvenir à l'ensemble de la population, conclut l'Association des maires de Mayotte.
Merci Laurent Kramer. On s'approche de la fin de l'interminable feuilleton budgétaire, en tout cas pour 2025. Le Sénat se penche aujourd'hui en nouvelle lecture sur le budget de la sécurité sociale. Le projet de loi devrait être adopté définitivement. Il prévoit un déficit de la Sécu de 22 milliards d'euros au lieu des 16 initialement prévus, le gouvernement ayant fait des compromis. Pourtant, tenter d'éviter la censure. La censure qui devrait tout de même faire son retour. Le Parti Socialiste se prépare à déposer une motion spontanée contre la trumpisation des esprits à la suite des propos du Premier ministre François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire. Elle devrait être examinée, cette motion, mercredi sur fond de tension entre le PS et la France Insoumise. Et c'est dans ce contexte de tension et de crainte autour du déficit budgétaire que le gouvernement s'apprête à rouvrir un autre chantier, celui de la réforme des retraites. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
La Cour des comptes rendra mercredi son diagnostic financier très attendu car il doit servir de base de discussion aux partenaires sociaux qui auront 3 mois pour tenter d'améliorer la réforme sans dégrader l'équilibre financier du système, ce qui s'annonce compliqué. Alors tout le monde, Agnès, s'attend de connaître le constat de la Cour des comptes sur l'ampleur du déficit.
Évidemment Céline, pour trouver le bon remède, il faut établir le bon diagnostic et c'est là que le bât blesse. Jusqu'ici, c'est le Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui donnait le là, son chiffrage faisait référence. Son évaluation cette année, un déficit proche des 14 milliards d'euros à l'horizon 2030. Mais François Bayrou a jeté un pavé dans la mare en estimant ce déficit à 55 milliards d'euros. La différence s'explique par la prise en compte par le chef du gouvernement du déficit des retraites du secteur public. Déficit comblé chaque année par l'État, ce qui a pour effet de creuser la dette, estime le Premier ministre. Une vision qui fait bondir le corps et les syndicats qui affirment, qu'une nouvelle cotisation prélevée sur les agents hospitaliers et les collectivités devraient rapporter 7 à 8 milliards d'euros et 2, que la fonction publique aussi est mise à contribution déjà en réduisant ses effectifs. Alors quel sera le chiffrage de la Cour des comptes après-demain? En présentant jeudi dernier le bilan annuel des comptes publics, Pierre Moscovici a refusé de répondre. Sans doute sera-t-il moins optimiste que le Conseil supérieur des retraites en raison de la dégradation des prévisions macroéconomiques, mais aussi moins pessimiste et moins politique que celui dressé par le Premier ministre, qui, en alourdissant le déficit, rend plus difficile l'abrogation de la réforme des retraites.
Merci Agnès Soubiran, service économie de France Inter. Et puisque l'on parle de budget, de restrictions financières, les vaches de race vosgienne ne seront pas présentes cette année au Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes samedi. L'organisme de sélection a en effet perdu une partie de ses subventions. Or, ça coûte cher de se rendre porte de Versailles, 70 000 euros l'année dernière. Les éleveurs ont donc décidé cette année de ne pas faire le déplacement. Et c'est une première, Guillaume Schum.
L'incertitude politique, une perte de 35 000 euros de subventions. Les vaches de race vosgienne ne feront pas le déplacement cette année dans la capitale. La décision a donc été prise à la majorité par les éleveurs. Florent Campello est installé à Mittlar, dans la vallée de Münster. Il est aussi président de l'organisme de sélection de la race bovine vosgienne.
On peut pas se dire un secteur en crise et on continue perpétuellement de donner de l'argent, de payer tous ces salons qui nous coûtent un peu cher quand même.
Un salon d'agriculture qui a coûté l'année dernière 70 000 euros. La solution, c'était d'augmenter les cotisations des éleveurs pour y aller. Finalement, les vaches, très appréciées par les visiteurs du salon de l'agriculture, restent cette année dans les exploitations et il a été décidé d'aider en priorité les élevages sur le territoire.
L'OS Vosgienne aujourd'hui, par exemple, rétrocède une partie de ses subventions à hauteur de quasiment 35 ou 40 000 euros en chèque à nos exploitations agricoles pour les données de performance, c'est-à-dire le contrôle laitier pour nos animaux, et ce qui lui permet, avec ces données de performance, de continuer à faire évoluer la race dans son territoire génétiquement, sans rien modifier, juste en faisant de la sélection génétique. Et du coup, ça, c'est pour nous la priorité au sein de l'OS Vosgien.
Reportage signé ici, Alsace. Un enfant de 3 ans est mort ce week-end de la méningite dans la Drôme. Le ministre de la Santé, Yannick Noder, s'est rendu ce lundi matin dans son école à Espeluche. Information de nos confrères ici, Drôme Ardèche. Un traitement préventif par antibiotiques a été mis en place pour les élèves cas contact. Et une cellule d'écoute psychologique a été créée dans son établissement. Ils sont étudiants en médecine, internes, hospitaliers, professeurs. Ils appellent à lutter contre le sexisme systémique dans le monde médical. Une centaine d'hommes ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour soutenir leurs consoeurs, victimes de violences sexistes et sexuelles. Plus de la moitié des soignantes disent en avoir déjà souffert. Et il est temps que la peur et la honte changent de camp, dit l'un des signataires, le docteur Olivier Milleron. Il est cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris.
L'idée, c'était que les hommes médecins fassent le constat publiquement que nous avons été élevés, éduqués dans un système sexiste. C'est un système patriarcal et que le pouvoir a été détenu et reste majoritairement détenu par les hommes. Mais il y a aussi effectivement cette culture carabine qui est particulière, hein, avec des salles de garde où il y avait des traditions particulières, très axées sur des fresques à caractère sexuel. À partir de maintenant, il nous semble important que les hommes s'opposent aussi à ces violences et que nous faisons partie du problème et de la solution. Je pense que le problème, il est au quotidien, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas de s'élever quand il y a des cas médiatisés. L'objet n'est pas de désigner des coupables, mais c'est de dire que comme c'est un problème systémique, nous avons tous notre rôle à jouer dans la vie de tous les jours et que dès qu'il y a une réflexion ou un acte qui est problématique, nous devons le signaler publiquement, dire à la personne qui commet cet acte que ce n'est pas acceptable.
Le docteur Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris, au micro France Inter de Victor Dolande. Et on va maintenant prendre la direction de Rome. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter. Je le disais tout à l'heure, les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour le pape François, le Vatican fait état d'un état clinique complexe. Faut-il s'inquiéter aujourd'hui pour le pape ?
Alors, les termes du moment, il est question d'une infection polymicrobienne, infection autrement dit assez sévère des voies respiratoires. Voilà ce qui émane du dernier communiqué de la salle de presse du Vatican il y a quelques minutes. C'est la salle de presse qui donne les informations, c'est important de le préciser. Elle n'émane pas directement de l'hôpital Gemelli de Rome, où François a été admis vendredi dernier. Cela fait plusieurs jours à ce moment-là qu'il souffrait d'une bronchite. Le traitement antibiotique ne faisait pas effet, d'où l'hospitalisation. Eh bien, après 3 journées quasi pleines à Gemelli, les médecins n'ont toujours pas trouvé le bon cocktail de médicaments. On est donc désormais sur une affection plus sérieuse qu'une bronchite. Ce week-end, une sortie en début de semaine semblait envisageable. Il est maintenant en question d'une hospitalisation à durée indéterminée. Ce qui suscite l'inquiétude, c'est l'état général du pape, 88 ans, une prise de poids ces derniers temps, lui qui n'est pas mobile et qui est en fauteuil roulant depuis 3 ans. Tableau clinique complexe, dit encore en effet ce communiqué. Pas d'alarmisme excessif, tient-on à préciser au Vatican. Le pape est conscient, il n'a pas de fièvre, il a une activité minimale, même si les médecins ont préconisé le plus grand repos.
Et on suivra tout cela évidemment avec beaucoup d'attention grâce à vous. Merci Bruno Duvic, en direct de Rome pour France Inter. Allez, je vais vous emmener à l'école maintenant. Désolé pour tous ceux qui sont en vacances, qui n'ont pas forcément envie de penser déjà à la rentrée. On va aller à l'école maternelle Voltaire de Dijon, où une enseignante a inventé une méthode d'enseignement qui devrait d'ailleurs bientôt être reconnue au niveau national. Depuis 2 ans, les élèves apprennent les chiffres et les lettres grâce aux notes de musique, Élie Duco.
Ça, c'est le prénom de Nour. Une note, une syllabe. Ici, les élèves ne sont pas associés à une couleur ou à un animal, mais à une mélodie. Les enfants entrent en classe, une étiquette avec leur prénom, initial en rouge, et une petite partition de quelques notes colorées, couleurs qui correspondent aux lames du métallophone. Ils jouent leur prénom en chantant. Avec les notes, on chante, on compte, on lit, on danse. Dans la classe, la musique est un fil rouge pour toutes les activités. Frédéric Thiébault a inventé cette méthode au moment où, après 20 ans à enseigner en CPCE1, elle part en petite section. Et là, le changement est brutal.
J'avais vu qu'en faisant une petite note, voilà, ting,
j'avais l'attention des enfants. Et je me suis dit, est-ce que le dire en chantant ne serait pas plus ludique?
Et c'est gagné, la méthode fonctionne.
Ce que les chercheurs ont montré, c'est que pourquoi les enfants retiennent tout? Parce qu'en fait, dans le cerveau, la zone de mémorisation, elle est immédiatement reliée à la zone de plaisir. Quand les enfants jouent de la musique, ils se font plaisir et ils retiennent tout.
Toute l'école utilise cette méthode. Karine et Tatsem, elle aide les maîtres et les maîtresses. Au début, elle a été surprise et aujourd'hui, elle est ravie.
Je trouve ça très intéressant et c'est vrai qu'après, les petits qui passent en moyenne section savent que le matin, ils ont leurs notes de musique, les grandes sections, il y a tout un travail derrière et ça apporte beaucoup de choses pour les enfants.
Frédéric Thiébaud insiste, pas besoin d'être musicien, tout le monde peut utiliser la méthode. Seul bémol pour le moment, elle n'est pas financée par l'éducation nationale.
Reportage ici Bourgogne, d'Élite Ducot et tous ses enfants n'ont sans doute jamais entendu parler de cet objet qui a quasiment totalement disparu de notre quotidien. Les cassettes audio, inventées dans les années 60, progressivement remplacées par les CD puis par les supports numériques, mais qui font leur grand retour grâce à la mode du vintage. Un club cassette vient même d'ouvrir ses portes dans le 5e arrondissement de Paris. Bonjour Juliette Bourgaud.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous y êtes rendue ce matin, vous avez croisé autant de nostalgie que de jeunes curieux.
Et dans cette boutique, on rembobine le temps. Tu respectes pas l'homme et tu ne respectes pas l'homme. 5 à 6 000 cassettes audio et vidéo sont entassées ici. Yann, 23 ans, adhère complètement. Elle est pourtant née pendant la période CD.
Je sais même pas comment est-ce qu'on met une cassette dans un lecteur de cassette. Pour un film que j'aime en particulier, ça pourrait être rigolo d'avoir la version cassette. Jurassic Park, par exemple, j'aime bien.
Léa, la cofondatrice du magasin, est presque étonnée du succès.
On s'est dit que c'était quand même quelque chose de niche. On a voulu tenter quand même. Et au final, on s'est rendu compte que peu de gens quand même avaient arrêté définitivement la cassette. Souvent, on les entend, ils chinent un peu, ils regardent. Et puis, tiens, ma mère, elle avait cette cassette-là dans la voiture.
La cassette, à l'époque, ça permet aussi d'enregistrer la musique qui passe à la radio. Pour Martial, grand collectionneur depuis 10 ans, c'est le retour à l'adolescence.
Voilà, j'enregistrais des compiles qu'on se passait avec nos potes. Il y avait une vraie réflexion de faire une compile et il n'y avait rien d'innocent à envoyer une compile à quelqu'un avec les morceaux choisis.
Et pour trouver des cassettes de hip-hop français, c'est le péché mignon de ce cinquantenaire. Il faut parfois compter plusieurs centaines d'euros la cassette.
Merci beaucoup Juliette Bourgaud. On ressort donc le bon vieux crayon à papier pour rembobiner la bande magnétique comme à la belle époque. 13h27 sur France Inter. Restez avec nous dans la prochaine demi-heure. On va retrouver les prévisions météo d'Élodie Calac pour voir à quoi ressemble ce début de semaine. Et puis on va accueillir notre invitée, la patineuse Gabriela Papadakis, qui a tout raflé pendant des années avec son partenaire Guillaume Cizeron. Ils ont été champions du monde, champions olympiques, avant de prendre leur retraite sportive. La semaine dernière, pendant un gala, Gabriela Papadakis a choisi de patiner en couple avec une autre femme, ce qui était une première. Casser les codes, rendre le patinage plus représentatif de la société, c'est son objectif. Et on en parle avec elle dans quelques minutes avec vos questions aussi. 01 45 24 7000. Une semaine dans leur vie, le feuilleton cette semaine nous emmène dans les coulisses du salon d'art contemporain de Montrouge au sud de Paris. Un rendez-vous qui s'est imposé comme un défricheur de talents. Une quarantaine d'artistes présentés cette année. C'est le directeur artistique qui nous en fait les présentations dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France. Bonjour Mathieu Avanzi.
Bonjour Céline.
Le lundi, on parle langue française avec vous. Quel est le programme du jour?
Enfilez vos masques et préparez les confettis. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du carnaval.
Et dans C'est une chanson, on traverse la Manche, une semaine spéciale Beatles avec les invités de Frédéric Pommier. Aujourd'hui, on réécoute le comédien François Berléand, pardon, qui partage ses souvenirs autour de la chanson Michel.
Moi, je suis en 4e ou 3e. Je suis très mauvais en anglais et donc le disque commence. Et on dit, c'est les Beatles, c'est le dernier disque des Beatles. Wow. Alors tout le monde est là, écoute, on danse un peu le slow. Donc j'entends « Michel, ma belle, son des mots qui vont... » Et je me dis « Waouh, ça y est, je parle anglais !»
François Berléand au micro de Frédéric Pommier pour nous emmener jusqu'à 14h. À tout de suite.
On en parle.
La nouvelle technologie hybride de Volkswagen a déjà convaincu les professionnels. On en parle avec Mathieu qui a commandé le nouveau Tiguan hybride comme voiture de fonction. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir choisi la motorisation hybride Volkswagen?
Eh bien, je l'ai sélectionné pour sa grande autonomie en mode 100% électrique. J'ai plus de 120 km pour faire tous mes trajets domicile-travail en semaine. Ouais. Et côté pratique, l'hybride propose une recharge très rapide.
Et ça donnera quoi pour vos longs trajets alors?
Alors, l'autonomie combinée électrique-thermique est excellente. Elle peut atteindre plus de 940 km sur mon Tiguan de 204 chevaux.
Ah ouais.
Donc franchement, ce sera complètement adapté à mes voyages pro et perso.
Et côté économique?
Eh ben, c'est aussi un très bon choix. En dehors du faible coût de rouler en électrique, la consommation totale sera raisonnable. Les révisions seront espacées. Et mon entreprise va bénéficier d'avantages fiscaux, donc finalement tout le monde y gagne.
En effet, merci beaucoup Mathieu.
On en parle. Donnez WLTP. En savoir plus sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Tout de suite la météo sur France Inter.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Et c'est une journée plutôt ensoleillée. Hein.
Oui, sur une grande partie du pays, c'est le soleil qui domine. Alors bémol vers la Provence et la Côte d'Azur, on a des nuages qui circulent, plus nombreux sur la Corse avec un risque d'averse. Bémol aussi sur l'ouest, là c'est une perturbation qui s'attarde. Alors sur la Bretagne et le sud-ouest, large avantage pour les nuages cet après-midi. On peut espérer quelques éclaircies agréables tout de même sur l'Aquitaine. Une averse de neige possible à partir de 1800 mètres sur les Pyrénées. Les températures sont toujours très contrastées, souvent trop juste au nord avec 4 à 10 degrés, mais trop douce au sud, hein, 12 à 16 degrés, jusqu'à 20 degrés à Perpignan, là c'est le printemps. Demain, journée agréable avec du soleil parfois voilé, mais des nuages cette fois-ci autour de la Méditerranée poussés par un vent de sud-est.
Merci Elodie Calac de Météo France.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
Voilà, je voulais qu'on commence par un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Not Loud Enough de Marius Baer. C'est donc la chanson que vous avez choisie pour ce spectacle qui bouscule les codes du patinage artistique. Gabriela Papadakis, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le studio du 13-14. On est ravis de vous recevoir. Alors, je vais rappeler en quelques mots votre CV. Pas facile, en quelques mots. 5 titres de championne d'Europe, 5 titres de champion du monde, 1 titre de championne olympique en danse sur glace. Alors, j'en oublie forcément, mais enfin, j'ai choisi les principaux. Toujours avec votre partenaire Guillaume Cizon. Vous avez tous les deux annoncé votre retraite sportive en décembre dernier. Et vous n'avez pas quitté les patinoires pour autant. Vous venez de participer à un prestigieux gala en Suisse. Et vous avez dansé, non pas avec un patineur, comme d'habitude, mais avec une patineuse qui s'appelle Madison Hubbell. Tout le monde n'a parlé que de ça. Est-ce que vous avez été surprise des réactions que vous avez provoquées ?
Énormément, énormément. Je savais évidemment qu'il y aurait beaucoup de réactions dans le milieu du patinage, parce que oui, c'est quelque chose qui ne s'est pas vu beaucoup, et jamais à ce niveau-là. Donc je m'attendais à ce que, évidemment, ça attire les regards. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de bruit et autant de gens qui soient intéressés à l'extérieur du milieu. Ça a été très surprenant.
Ah ben voilà, on en parle jusque dans le studio de France Inter, loin des patinoires. C'est une première. C'était une première, en fait. C'est aussi pour ça qu'on en parle.
Oui, alors ce n'était pas une première dans le sens où on n'est pas les premières à faire un couple avec deux personnes du même sexe, du même genre. Mais quand ça a été fait, ça a été, voilà, il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait pas, voilà, c'était des gens qui n'ont pas pu vraiment aller à très haut niveau, etc. Et nous, on va dire qu'on est les premières à avoir autant de visibilité, avoir autant de bruit et à participer à un spectacle de patinage qui soit aussi vu. Oui,
votre palmarès a joué évidemment dans la médiatisation. Avant d'aller au Standard de France Inter, une question sur la naissance de cette idée. À quel moment, avec votre partenaire, vous êtes dit « tiens, on va le faire, ça va être marrant et tout le monde va en parler
» en fait, nous, on s'entraînait dans le même centre d'entraînement pendant à peu près 7 ans à Montréal. Donc, on était un peu rivales, compétitrices l'une contre l'autre, mais aussi amies. Et en fait, un jour, on s'est dit, on a fait un exercice ensemble un matin un peu pour rigoler. Et on s'est dit, tiens, c'est drôle, ça marche quand même assez bien, surprenamment. Et en fait, on s'était dit un peu en riant, ce serait marrant d'explorer ça et de faire ça un jour quand on aura fini nos carrières compétitives. Et c'est ce qu'on a fait. Mais au début, c'est vraiment né d'une simple idée de partager la glace avec une amie. Et finalement, voilà, on s'est rendu compte avec tout ce que ça a engendré comme réaction, que ça voulait dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens et que même
y compris aux États-Unis, parce que Madison Hubbell, elle est américaine, voilà. Ça a aussi provoqué des réactions de l'autre côté de l'Atlantique. C'était aussi novateur des deux côtés.
Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est un peu partout. Le milieu du patinage est très international et ce qui est nouveau dans un pays l'est un peu partout, en fait.
Ouais. Allez, on va au Standard de France Inter où nous attend Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue.
Bonjour.
Vous nous appelez de la Baule.
Bonjour Gabriela.
Je vous laisse poser votre question.
Alors, je voulais savoir, Gabriella, si la musique, le fait d'être en couple féminin de danse sur glace, a une quelconque, la musique a une quelconque importance et influence dans vos choix. Le fait d'être un couple féminin sur glace avec Madison, et est-ce que ces choix musicaux ont pu influencer également votre chorégraphie, ou est-ce que votre chorégraphie, les mouvements en dépendaient ?
Merci beaucoup, merci. Isabelle.
Alors, en l'occurrence, dans ce spectacle-là, on n'a pas choisi la musique, puisque comme c'était un spectacle où les musiciens étaient live, en fait, on se fait toujours assigner des chanteurs, et les chanteurs chantent leurs chansons, etc. Et nous, on travaille avec ça. Après, je pense que, en fait... C'est un peu, ça va dans le sens de toute la démarche un peu où en fait il n'y a pas vraiment, c'est un peu de montrer qu'il n'y a pas vraiment tant que ça de différence entre les hommes et les femmes, en tout cas pas autant qu'on l'imagine, et que le choix de la musique s'inscrit plutôt dans une démarche de couple, dans une démarche de voilà qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quelle est notre identité ensemble, mais peu importe le sexe ou le genre de la personne avec qui on patine, donc on va vraiment aller avec les envies, avec ce qui nous va et peu importe.
C'était une très belle prestation, en tout cas si vous ne l'avez pas vue, je dis ça aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, n'hésitez pas parce que c'est disponible sur internet très facilement. C'est très féminin aussi, pardon de le dire ainsi, presque au sens un peu cliché du terme, vous avez des tenues très féminines, c'est très gracieux. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit la prochaine fois on ira encore plus loin, on cassera les codes encore plus?
Ouais, absolument. Bah, en fait c'est aussi que voilà, là on avait peu de temps pour se préparer parce que ça a été très rapide. On nous a dit, est-ce que vous voulez faire partie de ce spectacle-là ? On a dit oui, mais on avait peu de temps pour se préparer. Donc, on est allé un peu à la facilité, entre guillemets, même si ce n'était pas facile du tout. Mais voilà, on s'est dit, on n'a jamais patiné ensemble. On va pas, c'est pas tout de suite qu'on va aller nécessairement complètement sortir de notre zone de confort. On est déjà assez hors de notre zone de confort comme
petit
ça.
Petit pas par petit pas,
exactement. Mais oui, ultimement, voilà, maintenant qu'on a l'expérience d'avoir patiné ensemble, qu'on est déjà plus familière l'une avec l'autre, on aurait aussi envie de faire des choses qui soient de danser de manière qui casse complètement avec même ce qu'on a fait avant, avec d'autres costumes, etc. Et puis oui, briser un peu tout ça et aller chercher ailleurs et chercher la nouveauté, oui.
Absolument. Vous avez écrit un texte intitulé « Si c'était le changement que le sport attendait ». Juste pour expliquer aux auditeurs et aux éditrices qui se diraient bon, après tout, on est en 2025, deux patineuses évoluent ensemble sur la glace, ça n'a rien de révolutionnaire. Et pourtant, c'est ce que vous dites, vous, dans ce texte, au regard justement de votre connaissance et votre expérience de patineuse. Voilà, on en était loin quand même de tout ça.
Alors,
c'est conservateur,
drôle,
le patinage.
Parce qu'on en est loin, on en était loin, et pourtant les gens étaient très ouverts et les gens étaient très prêts parce que on a eu un tel retour positif et il y a tellement de gens qui nous ont offert ce retour positif là qu'en fait on est obligé de se dire non mais en fait les gens attendaient ça, les gens étaient prêts, on était prêts, le milieu était prêt. Moi, le patinage, c'est un sport que j'ai observé, que j'ai pratiqué et observé toute ma vie. Donc, j'en ai une compréhension quand même assez poussée. Et en effet, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques que j'avais remarquées pendant ma carrière et pendant mon parcours. Et je me demandais, voilà, comment faire en sorte que ce sport perdure, qu'il évolue avec son temps, qui devienne plus sécuritaire, plus sain en fait pour les générations, qu'il évolue de cette manière-là en même temps que voilà, en même temps que les gens, en même temps que la société. Et je pense que ça, en tout cas pour moi, c'est une partie vraiment importante de ce puzzle-là.
Allez, Clélia nous attend au Standard de France Inter. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Je vous laisse poser votre question à Gabriella Papadakis.
Merci. Bah, d'abord, je voulais vraiment lui dire merci, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait du patinage pendant pas mal d'années en club quand j'étais plus jeune. Et en fait, avec ma meilleure amie à l'époque, on a choisi de pas faire de compétition. Donc, on faisait des galas pour surtout s'amuser. On était deux et on faisait des spectacles toutes les deux, et on se disait mais bon, ça arrivera peut-être jamais à un haut niveau. Alors en compétition, on se disait bon, peut-être absolument jamais de la vie, mais en tout cas je trouve ça vraiment super que bah voilà, de voir que deux femmes puissent patiner ensemble. Et puis aussi bah je trouve qu'en tant que femme, ça apporte une libération des corps qui est vraiment rafraîchissante et bienvenue dans un sport où c'est vraiment pas facile. Et en grandissant, c'est vrai que je trouvais très oppressant de voir toutes ces patineuses voilà, avec des corps bien prédéfinis, un poids standard. Et voilà, donc voilà, je voulais vous dire merci. Et puis aussi vous demander qu'est-ce qui vous a poussé en fait à prendre cette direction aujourd'hui après tant d'années dans un milieu qui est quand même très exigeant.
Et je vous merci Clélia.
En fait, ouais, corps des femmes.
Pour votre question, vous ne voyez pas le sourire de Gabriela Papadakis, mais vous avez provoqué un grand sourire chez notre invité. Qu'est-ce qui vous a poussé, effectivement? Est-ce que c'est justement quelque chose du rôle des patineuses par rapport aux patineurs? Vous expliquez toujours dans ce texte que vous avez écrit que les femmes, voilà, on leur apprend à suivre et les hommes à mener sur la glace et que, bon, vous en aviez peut-être un peu assez.
En fait, oui, c'est drôle parce qu'à la base, l'intention n'était pas du tout, celle-là. L'intention, c'était simplement de patiner avec une amie sans se poser de questions. En fait, en patinant ensemble, en postant des vidéos, en ayant des retours, etc., et même en réfléchissant à cette pratique-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait apporter quelque chose au sport. Et puis surtout, en fait, parce que moi, ça m'apportait quelque chose à moi, j'ai grandi, c'est ça, avec cette idée que, voilà, il y avait des rôles très différents pour l'homme, pour la femme. Que ce soit dans les rôles de justement comment on interagit avec l'autre sur la glace. Moi, j'avais appris à être dans le rôle de la suiveuse, donc celle qui suit, celle qui imite l'autre. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point, justement, je me sentais un peu enfermée là-dedans jusqu'à patiner avec une femme, en fait, être forcée à sortir de ce schéma-là. Et c'est quelque chose que je n'avais pas questionné. Et en fait, en le questionnant, je me disais, tiens, c'est dommage, en fait, que dès le plus jeune âge, on n'apprend pas ça aux jeunes garçons, aux jeunes filles, à être peut-être plus... Oui, à être plus ouvert, à simplement être plus fluide dans le rôle qu'on prend par rapport avec l'autre. Et je me suis rendu compte que ça manquait à ma pratique, ça manquait à ma vie. Et en réfléchissant, je me disais que ça, en fait, c'est ça, ça pouvait apporter beaucoup au sport, je pense.
Et est-ce qu'il a fallu désapprendre des choses, justement, ou apprendre des nouvelles choses? Est-ce que ça change quelque chose? Tiens, Michel nous pose la question depuis l'appli France Inter. Est-ce que ça change les figures à faire sur la glace, par exemple? Est-ce que techniquement, c'est différent?
Alors, moi, je pense qu'ultimement, il n'y a rien de différent. Évidemment, avec Madison, ni l'une ni l'autre n'avons jamais appris à porter quelqu'un. Donc, c'est sûr que, évidemment, on ne pouvait pas se porter de manière aussi fluide et facile qu'on pouvait le faire avec nos partenaires masculins. Dangereux, je ne sais pas, c'est simple, c'est surtout une question de technique et c'est une technique qu'on n'a jamais appris. On a essayé un peu. Elle avait un tout petit peu plus d'expérience que moi. Elle me porte. Mais ultimement, oui, je pense que si on apprenait aux jeunes femmes à porter, aux jeunes garçons à se faire porter dès un plus jeune âge, je ne crois pas qu'il y aurait tant de différence qu'on ne le pense. Donc, c'était simplement ça, la différence. Moi, pour moi, c'est sûr que ça m'a forcé un peu à développer peut-être un peu plus d'assertivité. Dans le couple, quelque chose que j'avais jamais, je m'étais jamais mis dans une position où je devais exprimer ce type d'énergie, et c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer aussi. Donc je pense que pour ça, c'était surtout ça qui était différent, mais ultimement, je ne crois pas qu'il y ait de différence entre les hommes et les femmes tant que ça.
Est-ce que ça ouvre des perspectives? Parce que vous racontez toujours dans cette tribune que finalement, les garçons patineurs, ils sont bien moins nombreux, que lorsqu'on veut faire de la danse sur glace, il faut être deux, un homme et une femme, et que donc les hommes ont beaucoup plus le choix, que ça place les femmes aussi dans une position très compliquée parce qu'il faut être choisi, qu'on est choisi pour ses compétences, bien sûr, mais aussi parfois pour son physique, qu'on est dans une position où on doit plaire finalement à un partenaire.
Oui, je pense que simplement cette espèce d'écart mathématique fait en sorte que y a une différence de pouvoir en fait entre les garçons et les femmes, entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. C'est un peu inévitable et c'est vrai que les garçons grandissent avec cette idée qu'ils ont tout le choix du monde et les filles grandissent avec cette idée qu'elles sont remplaçables, qu'elles sont une commodité. Et donc je pense que ça a créé des problématiques même entre deux personnes dans un couple parce que voilà, il y a une grosse différence de rôle qu'on nous donne et une grande insécurité, je pense, chez les femmes qui font ce sport-là. Donc ça, pour moi, ça pourrait aider beaucoup et ça pourrait aussi ouvrir la porte à plein de femmes qui n'auraient pas un physique qui correspondent nécessairement à ce qui est valorisé dans le sport. Donc moi, je suis pas très grande, j'étais très mince, j'avais un corps très féminin, entre guillemets, donc j'avais pas ce problème-là, mais j'ai vu beaucoup de filles grandir à côté de moi, avec moi, qui correspondaient pas à la danse, soit elles étaient trop grandes, ou alors très musclées, ou bref, et qui pourtant étaient extrêmement talentueuses, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir une carrière à cause de ça, et je pense qu'en fait, moi je trouve ça dommage, et je trouve qu'on perd des talents, on perd beaucoup de talents à justement se restreindre qu'à un type de corps, en fait.
Une question de François, du Vaucluse, pensez-vous que les hommes sont prêts à le faire également?
Ah oui, absolument. Oui. Il y en a plein qui le font.
Réponse non, très claire. Gabriela Papadakis.
Oui, moi j'ai des amis oui qui font ça, qui n'ont pas eu la visibilité que j'ai eue avec Madison, mais j'ai des amis qui ont fait ça, qui ont fait quelques vidéos, qui ont envie de le faire, qui trouvent ça intéressant. Moi, je pense que oui, évidemment, il y en a plein. Oui.
Est-ce que ça peut ouvrir à d'autres publics? Parce que vous expliquez que dans vos textes, que vos amis queer et féministes, dites-vous, ne vous reconnaissaient pas, que vous étiez différente avec vos proches et sur la patinoire, que du coup, vos amis, bon, ils admiraient ce que vous faisiez sur la glace, mais enfin, c'était pas des fans de patins. Est-ce qu'on s'éloigne petit à petit d'une partie de la société quand on ne la représente pas sur la glace?
Bah, je pense que oui. Et ça, c'est le cas de tous les sports, et je dirais encore plus les formes d'art, parce que le patinage, c'est quand même... Voilà, c'est du patinage artistique, ça rejoint les gens par ce côté artistique-là, je crois aussi. Et c'est pas la majorité de tout le monde d'appartenir à ce schéma très hétérocentré, hétérosexuel. Et il y a beaucoup de gens, en effet, dans la société qui se sentent pas rejoints par cette façon-là de voir un couple, de voir deux corps danser ensemble. Et je pense qu'en fait, voilà, dans une société qui s'ouvre de plus en plus à la diversité des genres, je crois que c'est important que le sport et que l'art le fassent aussi.
Ben vous fait, le faites pour en continuer tout cas, vous apportez votre pierre à l'édifice, bravo. Et merci d'être venu nous en parler aujourd'hui dans le studio du 13-14, Gabriela Papadakis. Merci, très bonne journée.
Merci.
Allez, on va maintenant découvrir le premier épisode de notre feuilleton de la semaine. Une semaine dans leur vie, dans les coulisses de l'art contemporain. Comment se faire connaître quand on est un tout jeune artiste? Eh bien, il y a bien sûr les galeries, les centres culturels, mais il y a aussi le Salon de Montrouge aux portes de Paris. La 68e édition se tient jusqu'à dimanche et au fil des années, eh bien, ce rendez-vous est devenu un défricheur de talents. C'est ce qu'on va découvrir avec Julien Baldacchino dans ce premier épisode, aux côtés du nouveau directeur artistique du Salon, Andrea Ponzini, qui travaille aux événements culturels de la commune depuis 15 ans.
Nous sommes devant le Beffroi, qui est un bâtiment des années 30, en face de l'hôtel des villes, qui était le siège de tous les bureaux de l'administration de la collectivité, avec une assez grande salle des fêtes, qui était utilisée à la fois comme théâtre et aussi comme lieu d'accueil du Salon de Montrouge au tout début. Le salon est revenu ici en 2014, pour fêter son 60e anniversaire. Allons-y. Nous sommes dans l'entrée. Je suis Andrea Ponzini, j'ai 49 ans. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 27 ans, en appétit de travailler dans les métiers de la culture. Donc en fait, je fais mes études à Bologne, j'ai fait une maîtrise en sémiologie avec Umberto Eco. Les salons de Montrouge, c'est vu une photographie instantanée de nouvelles tendances de la jeune création émergente. C'est-à-dire que cet énorme open space de 1000 mètres carrés foisonne de tous les côtés d'artistes, régisseurs, monteurs, toute notre équipe donc, qui coordonne tous ces travaux. Ambiance factory de Andy Warhol. Il est né comme salon classique 19e siècle, on va dire, pour citer les plus connus, les salons des impressionnistes, où il y avait des peintres avec une œuvre chacun. Ça, c'était un format qui avait comme objectif de faire connaître les jeunes inconnus avec une caution, quand même, une sorte de parrainage un peu d'auteur aux galeries. Ce qui est devenu un peu has-been, c'était effectivement le format d'une œuvre par artiste fois
120, 150 artistes. Ça, c'était les premières éditions. En 2009, à l'arrivée de Stéphane Coréard, qui a fait un véritable audit quasiment du projet, en disant « il faut absolument qu'on expose plusieurs œuvres par artiste », il a vraiment su se renouveler.
Arrive. Je vous trouve Victoria, peut-être, ou... Victoria !
Je m'appelle Victoria Frenac, je suis architecte. Le métier de scénographe d'exposition, c'est à partir d'une liste d'œuvres, créer des thématiques, essayer de faire en sorte que les œuvres puissent communiquer entre elles sur le plan. Et puis c'est aussi travailler un parcours, travailler la lumière et oui, effectivement, créer des résonances entre les différents travaux de l'exposition.
J'ai fait en sorte que les membres du jury ils soient aussi dispersés que possible sur les territoires français et ils soient surtout réceptifs par rapport à un jury académique. Et c'était vraiment intéressant pour nous de suivre ces pistes, des parcours autodidactes, des parcours hors des sentiers battus et d'artistes qui sont formés dans d'autres écoles que celles des grandes villes. Ce qui est intéressant, c'est comment on obtient plus de choses à 40 que à un ou deux, et comment le fait de partager cet espace avec 39 autres individus et égaux d'artistes, évidemment, comment on peut faire de ça un win-win, surtout pas une colloque dans laquelle chaque artiste il est enfermé dans sa chambre, mais c'est vraiment plutôt un projet collégial, comment aider un jeune artiste à émerger.
Une semaine dans leur vie au Salon de Montrouge, suite demain de notre feuilleton signé Julien Baldacchino et Stéphane Ronxin.
France Inter, le 13-14.
13h51, c'est la France et le lundi, c'est avec vous, Mathieu Avanzi, le linguiste spécialiste du français de nos régions. Et on va parler du carnaval, puisque cette saison, bien sûr, quelles sont les origines du carnaval?
Alors, c'est une fête ancienne, une fête qui est riche de symboles et dont les origines païennes remontent bien avant son intégration au calendrier chrétien. À la base, les célébrations qu'on appelle aujourd'hui de carnaval marquaient la fin de l'hiver et l'espoir de voir le printemps revenir. Elles s'accompagnaient souvent de danses, de chants et de rituel destiné à chasser symboliquement la saison froide. Et puis ces fêtes, c'était aussi l'occasion de se libérer des contraintes de la vie quotidienne, notamment à travers le port du masque, symbole de la transformation et de la liberté. Ces traditions, aujourd'hui, elles ont évolué hein, avec l'arrivée du christianisme qui a réinterprété le carnaval comme une période de réjouissance précédant le carême. Le carême, je vous le rappelle, c'est cette phase de 40 jours de jeûne et de privation qui prépare les fidèles à Pâques. Mais avant de se plier à ces règles, on s'accorde une période de festin et d'excès. C'est ce qui donne tout son sens à mardi gras, dernier jour où on peut consommer des aliments riches. Il vient du latin médiéval carne levare, qui signifie littéralement enlever la chair, c'est-à-dire cesser de manger ce qui vient des animaux, des œufs, des laitages et bien sûr de la viande.
Donc Mathieu, on peut dire que le carnaval, c'est l'ultime moment de gourmandise avant la grande période d'abstinence.
Parmi les plaisirs de cette fête, il y a les fameux beignets de carnaval. Mais attention, ces douceurs changent de nom et même de forme selon les régions. Dans le sud-ouest, on les appelle merveilles. Dans le Languedoc et la Provence, ça devient des oreillettes. Dans l'ouest, des bottereaux ou des tourtisseaux. Au sein de la région Rhône-Alpes, vous connaissez peut-être les bugnes. Bon, vous allez me dire que les bugnes et les merveilles, c'est pas la même chose, et vous avez raison. D'un coin à l'autre de la France, ces recettes varient. Au nord, les beignets sont plus épais, moelleux et avec une mie bien aérée. Au sud, ils sont plus fins, croustillants, presque craquants sous la dent. Et tenez, une petite anecdote étymologique, puisque ça concerne un mot de chez moi. Figurez-vous que j'ai découvert il y a pas longtemps que le mot bugne avait une origine assez pittoresque. Il vient du latin bugna, qui signifiait bosse ou excroissance. C'est le même mot qui a donné le verbe beugner, qui signifie se faire une bosse en se cognant. Pas étonnant, en fait, quand on voit la forme des bugnes qui sont un peu cabossées.
Ah bah merci pour l'explication, Mathieu. Alors, il y a les excès culinaires, il y a aussi des traditions spectaculaires.
Absolument, Céline. Prenez par exemple la tradition du caramantran ou carmantran, ça dépend des coins. Typique du Sud-Est, ce mot valise résultant de la déformation de carême entrant désigne un mannequin grotesque fait de vieux vêtements que l'on promène dans les rues avant de le brûler en place publique. Symboliquement, ce bûcher symbolise la fin des réjouissances de carnaval et l'entrée dans la période de jeûne. Dans le nord de la France, il y a une autre tradition spectaculaire, les géants. Ces grandes figures de bois et de papier mâché, héritées du Moyen-Âge, incarnent des personnages locaux ou légendaires.
légendaires. Chaque carnaval leur rend hommage par des cortèges dansants. Par exemple, au carnaval de l'Équin, on croise les géants Hippolyte et Titée. Ces pratiques, qu'il s'agisse des cortèges provençaux ou des géants du Nord, illustrent la richesse et la diversité du carnaval. Et surtout, elles rappellent qu'en France, quand il s'agit de faire la fête, on n'est pas les derniers. Alors que vous soyez à l'Équin ou à Nice, à Saint-Pierre-de-Chandieu, près de Lyon ou à Dunkerque, sortez vos tambours, vos confettis, et allez hop, que ça dégage, comme on dit dans certaines régions, c'est carnaval.
Merci Mathieu Avanzi de C'est la France. Ah, c'est une chanson et c'est une spéciale Beatles que l'on vous propose cette semaine avec les rediffusions des invités de Frédéric Pommier. Aujourd'hui, on réécoute le comédien François Berléand qui avait choisi la chanson Michel, chanson sortie en 1965, qu'il avait découverte au début de l'adolescence et qui avait eu un effet très mystérieux sur lui.
J'étais dans une surprise partie, c'était l'après-midi, et le papa de la fille qui nous recevait était pilote de ligne et avait acheté, il venait juste de sortir, il n'était pas encore sorti en France, on n'avait jamais entendu sur les ondes, Michel. Si vous vous souvenez des paroles, ça commence en français. Sauf qu'on nous dit, c'est les Beatles. Moi je suis en quatrième ou en troisième, je suis très mauvais en anglais, et donc le disque commence. Et on dit, c'est les Beatles, c'est le dernier disque des Beatles. Waouh! Alors tout le monde est là, écoute, on danse un peu le slow. Donc j'entends Michel, ma belle, son des mots qui vont. Et je me dis, waouh, ça y est, je parle anglais. Et donc ça a été une illumination. Je parlais enfin l'anglais. Et moi je pensais qu'il fallait l'apprendre, etc. Non, en fin de compte, c'était inné. Puis tout à coup, il se met à parler une langue que je ne connais pas, mais que je comprends être de l'anglais. Et là, je lui dis, alors finalement, je ne parle pas.
Est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous réentendez cette chanson, qu'elle surgit à la radio,
vous faites la même réflexion? Ah, non, je parle anglais.
Ah, mais à chaque fois que je l'entends, de toute façon, je ris, parce que c'est ce souvenir qui reste dans ma tête, puis ça ne s'effacera jamais, quoi, c'est sûr.
Ça, vous avez progressé en anglais ?
Ouais, un peu, mais pas vraiment bien. J'entends pas bien les sons, bizarrement. Vous savez, il y a un problème d'audition aussi. Il y a des sons qui parviennent moins bien que d'autres. Mais en même temps, c'était une langue aussi qui était un peu interdite. Mon père était russe, il parlait russe avec ma babouchka. Et puis, en anglais, c'était la langue que mes parents parlaient pour qu'on ne comprenne pas, mon frère et moi. Donc c'était aussi une langue interdite. Donc j'ai dit, bon bah je fais plaisir à mes parents, bah, je ne l'apprends pas, en plus ça me fera moins de travail aussi. Vous voyez ?
C'était chouette les slow à cette époque-là ?
Ah oh, ouais. Bah oui, mais c'est pas le Covid. On pouvait s'embrasser. Moi je me souviens quand j'avais 18 ans, jusqu'à 30 ans, on attendait les slow pour draguer quoi. Et puis à un moment donné, je me souviens d'avoir été dans des boîtes, je me suis dit, mais les slow, ils arrivent quand ? Donc, je m'étais levé, j'allais voir le DJ, je me suis dit, mais... C'est quand les slow ? Je dis, il n'y a plus de slow. Ah bon ? Mais comment on fait pour draguer une fille ? Tu danses à côté, puis voilà.
Cette chanson-là, Michel, vous avez dragué dessus ?
Ah bah oui. Ah oui, 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 oui. Bah oui, oui, forcément. C'était mon premier baiser sur la bouche. Avec la langue, et moi je ne savais pas qu'il fallait mettre la langue à l'époque. Donc j'étais très surpris qu'elle mette la langue, la fille.
Sur cette chanson-là ?
Oui. J'étais très intéressé par cette fille, qui était elle-même intéressée par moi, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un baiser avec donc la langue, et ça m'avait très surpris.
Bah, elle est importante, cette chanson ?
Bah ouais, très, hein. L'air de rien. Le premier baiser, la première fois où je comprends l'anglais, ouais, ouais, vraiment bien. I will say the only words I know that you'll understand.
Beatles, le choix et les souvenirs donc du comédien François Berléand au micro de Frédéric Pommier. C'est une interview qui a été diffusée la première fois en septembre 2023.